Donc qu'est-ce que la prématurité? La prématurité, c'est la naissance d'un enfant avant le terme de 37 semaines, une grossesse normale étant d'une durée de 41 semaines. En pratique, c'est une définition qui est assez large, puisque on prend en charge des enfants à partir de 24 semaines de grossesse jusqu'au terme. Donc un nouveau-né prématuré pris en charge en France actuellement sont entre les termes de 24 et 37 semaines. Et bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes enfants. Un enfant qui est né à 34 semaines n'a pas du tout la même maturité qu'un enfant né à 24 semaines. Et en fonction du terme de naissance, les points posés seront bien évidemment très différents. Alors les causes de prématurité sont très variables. Une des causes les plus fréquentes, c'est l'infection materno-fœtale, la chorioamnionite. Il peut y avoir la rupture prématurée des membranes sans qu'il y ait forcément une cause infectieuse sous-jacente. Et puis, il y a des prématurités aussi qui sont provoquées par décision médicale pour sauvetage de l'enfant par rapport à une pathologie maternelle, et notamment, par exemple, dans le cas d'une toxémie gravidique, c'est-à-dire une hypertension maternelle mal supportée, mal contrôlée. Il y a énormément de causes. D'autres causes aussi assez fréquentes, c'est les problèmes de malformation utérine qui font que les grossesses n'arrivent pas à terme. Je dirais que c'est essentiellement ces causes-là que l'on rencontre dans la prématurité. Donc, la naissance prématurée implique en fait l'arrivée au monde d'un enfant dont tous les organes sont formés, mais dont la plupart des fonctions sont immatures. Alors les problèmes posés vont donc toucher tous les organes. Bien sûr, le problème essentiel néonatal immédiat, c'est l'adaptation à la respiration. Le problème majeur donc dès la naissance, c'est la capacité à respirer seul ou non. Donc pour les enfants prématurés et surtout donc les enfants très prématurés, il manque une substance au niveau pulmonaire, au niveau des alvéoles pulmonaires, qui est le surfactant, qui fait que ces enfants ne peuvent pas être autonomes sur le plan respiratoire et nécessitent d'être intubés, c'est-à-dire mise en place d'une sonde au niveau trachéal pour assurer une ventilation artificielle. Et ce déficit en surfactant, en fait, on est capable depuis quelques années de le compenser par l'administration de cette substance qui est fabriquée de façon artificielle que l'on administre dans la sonde de ventilation de l'enfant. Donc ça, c'est le premier problème immédiat, je dirais, qui se pose à la naissance. Ensuite, l'évolution de cette immaturité pulmonaire qu'on appelle la maladie de membranialine est variable. Avec le surfactant, l'évolution est quand même actuellement le plus rapidement favorable, avec une autonomisation respiratoire assez rapide. Et puis, dans les heures qui suivent, on peut avoir des difficultés sur le plan, comme on dit, hémodynamique, c'est-à-dire un enfant qui a une tension artérielle trop faible, pour de multiples raisons qui ne sont pas encore toutes connues à l'heure actuelle, donc à ce moment-là, on est obligé de les aider. Toujours sur le plan hémodynamique et cardiovasculaire, un problème fréquemment rencontré dans les premiers jours de vie, c'est ce qu'on appelle la persistance du canal artériel. Le canal artériel étant un petit vaisseau qui relie l'aorte à l'artère pulmonaire, qui est absolument indispensable à la vie fœtale et qui normalement se ferme de façon physiologique à la naissance. Très souvent, chez le nouveau-né prématuré, cette fermeture du canal artériel ne se fait pas spontanément, ce qui fait que la vascularisation pulmonaire est trop importante par ce petit vaisseau, car le poumon va recevoir du sang qui revient de l'aorte vers le poumon, et cela va entraîner justement d'autres difficultés respiratoires. Donc là, à ce moment-là, on peut administrer un traitement médical, ou bien, en cas d'échec du traitement médical, proposer une chirurgie. Alors, si on parle maintenant des autres organes, point important aussi, c'est l'immaturité digestive. Ces enfants prématurés tolèrent mal l'alimentation et surtout ne sont pas autonomes sur leur alimentation, ne sont pas capables de boire un biberon. Donc, on est obligé de débuter l'alimentation en très faible quantité, d'augmenter très progressivement, de proposer initialement un gavage gastrique, et on pourra penser à proposer une alimentation au biberon à partir de l'âge de 34-35 semaines où la maturation de la fonction succion-déglutition commence à se mettre en place. Le problème digestif est quand même assez important puisque un des cauchemars, je dirais, de néonatologie, c'est ce qu'on appelle l'entérocolite ulcéronécrosante, une complication digestive extrêmement grave où l'enfant présente un tableau d'occlusion très sévère avec des troubles respiratoires et hémodynamiques parfois très sévères. Et pour les enfants les plus petits, les extrêmes prématurés, le décès est très fréquent et on considère que l'entérocolite chez un enfant de moins de 1000 grammes, c'est pratiquement 100% de mortalité. Alors le dernier point, il y a aussi bien sûr le problème de l'immaturité rénale, mais bon ça finit par se contrôler. Un des points essentiels, bien évidemment, c'est le problème de la maturité neurologique. Donc l'enfant, déjà, ses fonctions neurologiques sont immatures, ça on le sait, donc les examens cliniques du prématuré, en termes de neurologie, est très pauvre. Et le problème, c'est que le cerveau est extrêmement fragile et qu'il a des risques de lésions supérieurs à un enfant qui naît à terme. Donc il y a essentiellement deux types de lésions que l'on observe chez ces enfants prématurés. Dans les premiers jours, très précocement, ce sont les hémorragies intraventriculaires qui peuvent être plus ou moins abondantes. Et selon l'importance de cette inondation ventriculaire, le pronostic neurologique de l'enfant est engagé. Et le deuxième type de lésion que l'on voit souvent apparaître un petit peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les leucomalacies périventriculaires, qui sont des zones d'anoxo-ischémie cérébrale qui se situent autour du ventricule. C'est donc une destruction neuronale qui va être remplacée soit par des cavités, soit par une fibrose. Et en fonction de l'étendue de ces lésions, là aussi, le pronostic neurologique de l'enfant peut être engagé, soit avec des troubles moteurs, mais si les lésions sont vraiment très étendues, il peut y avoir des troubles aussi cognitifs et des difficultés d'acquisition par la suite. Alors le taux de survie, effectivement, en fonction de la prématurité est très variable, et ce qui correspond au fait de ce que je disais au début, c'est qu'on ne peut pas parler de la prématurité en général, mais qu'il y a, je dirais, différents stades dans la prématurité. Donc pour les extrêmes prématurés, c'est-à-dire les enfants nés avant 25 semaines, les taux de mortalité sont très élevés, estimés de l'ordre de 60%. Il faut aussi savoir qu'en réalité, ces taux sont variables selon l'habitude des équipes à prendre en charge ces enfants, parce que ça demande quand même une finesse dans la prise en charge et dans la gestion. Et la majorité des décès, en fait, sont liés au problème notamment d'hémorragie ventriculaire précoce, du fait de cette fragilité neurologique. Et plus on avance, je dirais, dans la maturation, et plus le taux de décès diminue. Et déjà, après 29 semaines, on a un taux de décès qui est beaucoup plus faible, de l'ordre de 15%. Alors, les séquelles neurologiques, il est extrêmement difficile de donner des chiffres en ce qui me concerne. Parce que tout dépend des attitudes des équipes en fonction justement de la mise en évidence des séquelles, des lésions neurologiques. En effet, les recommandations tirées du Collège de néonatologie vont dans le sens de dire, quel que soit le terme de l'enfant, on le prend en charge à la naissance et on fait une réanimation d'attente afin de faire le point sur les capacités de survie de cet enfant, éventuellement d'évaluer le risque de séquelles. Et si l'on considère que les lésions neurologiques de l'enfant sont trop importantes avec un risque de séquelles majeures, une décision d'arrêt de réanimation peut être discutée. Et dans ce cas-là, je dirais que l'incidence des séquelles va dépendre de cette attitude initiale. Alors, la prise en charge d'un nouveau-né prématuré, en fait, dans un service de néonatologie, elle est longue. Il faut savoir, et c'est une chose dont il faut informer les parents quand l'enfant arrive à la naissance, c'est que ces enfants resteront hospitalisés jusqu'à un âge égal au terme. C'est-à-dire un enfant qui naît à 25 semaines sera hospitalisé jusqu'à un terme corrigé, on va dire, de au mieux 38 semaines si tout se passe bien, ce qui représente donc 13 semaines d'hospitalisation. Donc cela met en jeu un certain nombre de professionnels autour de ces enfants, donc bien évidemment l'équipe médicale de néonatologistes. Je dirais aussi, il est intéressant et important de pouvoir interagir dès la période néonatale avec des spécialistes travaillant par exemple dans des centres comme les CAMS pour éventuellement prévoir et organiser le suivi de ces enfants dans l'avenir. Car même si on ne met pas en évidence en période néonatale de façon évidente des lésions au niveau des différentes explorations, on sait que ces enfants peuvent quand même avoir des difficultés d'acquisition qui doivent être prévenues et anticipées le plus possible, gérées par la suite par des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes plus tard, afin de les préparer le mieux possible à l'entrée à l'école. En dehors de l'équipe médicale, qui peut aussi inclure les psychiatres, qui sont bien évidemment indispensables, en collaboration avec les psychologues dans le service pour le soutien des familles, puisque c'est une rupture brutale de la mère avec son enfant, cette naissance prématurée, qui est très souvent non prévue. Donc des moments très longs et très difficiles pour les familles. Donc c'est très important d'avoir cet environnement psychiatre et psychologue. Ensuite, importance des psychomotriciens, psychomotriciennes, kinésithérapeutes, kinésithérapeutes indispensables lorsque l'enfant est intubé ventilé sous machine, et je dirais psychomotriciennes et kinésithérapeutes pour éviter que l'on crée dès la période néonatale justement des handicaps par malposition de l'enfant. L'installation de l'enfant en période néonatale est très importante. Éviter qu'il y ait des positions vicieuses, puisque la motricité de l'enfant est quand même assez limitée. Si on ne fait pas attention à son positionnement régulièrement, on va voir apparaître dès la période néonatale des positions vicieuses qu'il faudra après récupérer, ce qui sera beaucoup plus long. Ensuite, bien évidemment, il y a l'équipe paramédicale, infirmière, puéricultrice, aide-soignante, qui concourent, je dirais, le plus fréquemment au bien-être et aux soins de cet enfant. Alors, lorsque l'enfant est hospitalisé en période néonatale, il est évidemment bien important de maintenir le lien de la mère à son enfant. Et là, je dirais que l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale a un rôle à jouer. Tout d'abord, les premières personnes, je dirais, qui sont les personnes qui sont en première ligne auprès des mères, ce sont évidemment les infirmières et les puéricultrices qui expliquent aux parents les différents appareillages autour de l'enfant, la prise en charge, je dirais un petit peu pour démystifier tout ça. Et dès que possible, après avis médical, on encourage à ce que l'enfant aille dans les bras des parents pour justement entretenir ce lien. Une personne importante aussi, c'est lorsque l'on dispose, c'est la psychomotricienne qui peut proposer aux parents de faire des massages à l'enfant, d'aider dans sa prise en charge. Et puis, je dirais que les médecins aussi ont un rôle à jouer en informant bien évidemment régulièrement les parents de l'évolution de leur enfant, de faire apparaître les points positifs, d'encourager la présence des parents. Parce que parfois les parents ont l'impression, notamment dans les premiers jours, lorsque l'enfant est sous machine, que leur présence est inutile. La présence des parents n'est jamais inutile et quel que soit l'état de l'enfant, il ressent toujours le fait que sa maman ou son papa est présent. Et bien évidemment, dès que l'enfant est moins instable et moins fragile, on fait participer les parents aux soins de confort de l'enfant, changement des couches. Quand on peut donner un bain à l'enfant, les parents viennent donner le bain à l'enfant. Donc tout est fait pour que, je dirais, le retour à la maison s'installe dès l'hospitalisation, que les mères soient à l'aise dans les gestes à donner à l'enfant. Et enfin, un point essentiel, c'est d'encourager aussi l'allaitement maternel, car lorsque l'enfant est hospitalisé, même s'il ne va pas au sein de sa mère, la maman peut tirer son lait, et le lait peut être administré à l'enfant par la sonde gastrique, et ça c'est extrêmement important et très valorisant pour les mamans qui se sentent souvent démunies de ce qu'elles peuvent faire pour leur enfant. Lorsque une femme est hospitalisée dans le service obstétrique parce qu'il y a une menace d'accouchement prématuré, bien sûr il y a des situations imminentes où la dame va accoucher dans les heures qui suivent ou l'heure qui suit son arrivée dans le service de maternité, mais quand même dans un certain nombre de cas, les mamans sont hospitalisées quelques jours dans le service de maternité et il est important dans ce cas-là qu'elles rencontrent l'équipe pédiatrique afin d'être informées des modalités de prise en charge de leur enfant, car après c'est extrêmement aidant pour le suivi dans les jours à venir. Donc le premier point, c'est déjà de les informer de ce qui va être leur enfant prématuré, parce que on a souvent des parents qui nous disent « Tiens, il est complètement formé, il a tout. » Donc déjà, bien faire comprendre que c'est un enfant qui a effectivement tous ses organes, qui est complètement formé, mais qui va être immature et leur exposer donc les différents risques au niveau des différents organes. Et je pense surtout insister sur les risques neurologiques, parce que c'est quand même le souci principal du néonatologiste. Et puis aussi certainement bien leur faire comprendre la durée de l'hospitalisation, parce que ça c'est toujours très douloureux quand on leur annonce, alors que c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu, que leur enfant va être hospitalisé par exemple 3 mois avant de rentrer à la maison. Donc ça c'est un point extrêmement important. Et lorsque l'état de la mère le permet, ce qui n'est pas toujours facile, c'est de les emmener visiter le service où l'enfant sera pris en charge, parce que là, ça leur permet d'imaginer l'environnement qu'aura leur enfant, de se projeter un petit peu dans l'avenir immédiat, et je pense que c'est très aidant pour elles, et c'est pour le moins choquant la première fois où elles viendront voir leur enfant dans le service de néonatologie. Alors, les enfants qui naissent prématurément nécessitent un suivi, alors je dirais, surtout pour les enfants avant 34 semaines, on va dire, ou même après s'il y a eu des inquiétudes sur le plan neurologique. Donc ces enfants nécessitent un suivi. Donc bien évidemment, le réseau de la ville est important, les PMI sont très aidantes, Et à la sortie de l'enfant, il n'est pas rare que l'on demande à la PMI de déléguer une puéricultrice pour rendre visite à domicile régulièrement à la maman, qui peut être un peu perdue, hein, parce qu'elle se retrouve d'un seul coup avec un enfant qui était dans un cadre très médicalisé. Donc pour l'aider, et des fois des petits conseils rassurent bien les mamans. Donc il y a aussi les médecins de PMI qui peuvent voir l'enfant, le peser. Le pédiatre traitant est extrêmement important, mais ces enfants doivent aussi bénéficier d'un service, d'un suivi spécialisé, donc soit par le service de néonatologie, qui va regarder précisément la croissance, la prise alimentaire, le développement neurologique, éventuellement suivre les problèmes respiratoires, mais aussi, point très important, c'est le suivi au niveau des CAMS, qui prend en charge, je dirais, l'ensemble des problèmes neurocognitifs dans les premières années, jusqu'à l'âge de 6 ans, et qui ont la possibilité de mettre en route des systèmes de rééducation, la kinésithérapie, l'orthophonie. Et donc, tout ça est très aidant parce que ça se fait en un seul lieu, et a priori à côté de chez les parents, puisque les CAMS sont sectorisés. Donc c'est un point extrêmement important parce que l'objectif, c'est que l'enfant arrive à l'école dans les meilleures conditions, avec le moins de difficultés possibles. Donc il faut anticiper, bien sûr, par exemple, les difficultés de langage seront peut-être prises en charge plutôt après l'âge de 3 ans, mais tout ce qui est moteur doit être dépisté et pris en charge le plus tôt possible. Alors lorsqu'un enfant arrive de cette façon prématurément et qu'il existe déjà une fratrie, c'est bien évidemment une énorme perturbation pour l'ensemble de la famille. Et donc il faut aider les parents, je dirais, à gérer non seulement leur enfant hospitalisé, mais aussi la fratrie, car c'est souvent un sujet très à fleur de peau pour les parents. Alors déjà, ils ne savent souvent pas quoi dire à leurs enfants. Et donc en fait, ce que l'on essaye de faire, c'est, avec l'aide des psychologues, de discuter avec les parents de leurs autres enfants et de leur proposer que les enfants viennent faire une visite de leur petit frère ou de leur petite sœur hospitalisée. Alors moi, je pense que c'est très important pour ces enfants plus grands, disons plutôt à partir de l'âge de 3 ans, quand ils commencent à parler, à pouvoir formuler ce qu'ils voient, parce que souvent, les mamans sont absentes, alors qu'elles étaient plus présentes avant, et ça leur permet d'imaginer au cours de leur journée où va leur maman, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là. Donc je pense que déjà ça leur donne des repères, et puis ils sont toujours contents de voir leur petit frère, leur petite sœur. Et ce qui est très intéressant, c'est que le regard de ces enfants n'est pas le regard de l'adulte. Souvent les parents nous disent on ne va pas les emmener parce que il y a toutes ces machines autour du bébé, ça va les effrayer. En pratique, le regard de l'enfant est complètement différent, ils ne voient pas les machines. Ils ne verront que l'enfant, ils regarderont ses cheveux, ses pieds, ses mains. Mais l'environnement les choque beaucoup moins que les adultes. Et il est aussi important de prendre en considération la fratrie après, dans le suivi de l'enfant, voir comment s'organise la famille avec l'arrivée à la maison de cet enfant un petit peu fragile, qu'il faut protéger des infections. Au cours des consultations de suivi, il est important de bien prendre en considération le mode de garde du bébé et comment tout ça s'organise autour de la fratrie.